Hello, beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève. Que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga et aux cours d'anatomie ludique et appliquée à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz, en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode 111. Nos secrets d'entrepreneuse. Avec Sarah Vidal, Laure Baveski et moi-même. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. J'ai eu tellement plaisir à enregistrer l'épisode qui suit puisque j'y interviewe deux amies. L'élégante Laure Baveski, aussi mieux connue sous le nom Instagram de Santa Mila, qui a développé toute une méthode autour de l'Ocean Therapy, avec des séjours, mais aussi avec des programmes en ligne et une très belle communauté Instagram. Et puis ma chère Sarah Vidal, créatrice de la marque Alma Lua, une marque de vêtements de yoga fleurie et originale, fait au Portugal et avec de magnifiques matières recyclées. Laure et Sarah sont toutes les deux des invitées solo du podcast, et je mettrai dans la fenêtre de cet épisode les liens vers leurs conversations respectives. Laure, Sarah et moi, on a pour habitude de déjeuner les mercredis midi après notre cours de yoga pour discuter d'un de nos sujets préférés, l'entrepreneuriat. Ce sont des déjeuners souvent à rallonge qui nous permettent de nous soutenir, nous donner des conseils, faire part de nos difficultés et de rire de certaines de nos galères. Avec le temps, je me rends compte de l'importance et de la richesse de ces conversations et aujourd'hui, nous t'invitons à notre table. Que tu commences juste ton chemin entrepreneurial ou que tu sois déjà bien établi, avec l'envie de passer au prochain step de ton activité, je sais que tu trouveras dans cet épisode de riches conseils de nous trois. Nous parlons notamment de l'importance de se connaître en tant qu'entrepreneur, de nos plus gros fails et de ce que cela nous a appris. De nos game changers qui ont fait passer notre activité à la prochaine étape. Les tips de Laure pour t'organiser et une journée type avec Sarah Vidal. Nous parlons aussi d'anxiété entrepreneuriale et de santé mentale. Découvre ce qui est challengeant pour nous et ce que nous aimons le plus dans l'entrepreneuriat. Et puis, chacune de nous trois donnons nos meilleurs conseils d'entrepreneurs. Et tu découvriras encore bien plus de conseils. J'ai hâte que tu écoutes cette conversation. Et bien sûr, si cet épisode te plaît, alors n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces précieux conseils. Je te souhaite une très belle écoute.
Welcome on the show.
Merci à nous.
Pour la deuxième fois. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que c'est important de se connaître en tant qu'entrepreneur? Alors Laure, puisque tu te marches, je te propose que tu commences.
Dans quelle mesure c'est important de se connaître quand on est entrepreneur? Je dirais que c'est hyper important pour savoir là où sont nos forces et là où sont nos faiblesses et de bien les avoir en tête, puisque là où on a des vraies qualités et une force, ça va nous permettre vraiment d'être différenciants et d'aller plus loin que nos concurrents dans ce que l'on fait. Et il faut foncer et mettre toute son énergie là-dessus. Et là où on a nos faiblesses, ça va être de trouver de l'aide, de vraiment déléguer ces parties-là et d'avoir vraiment des gens qui sont experts. Parce qu'en général, ces faiblesses-là, c'est des moments où on va perdre du temps et où on va perdre du temps à ne pas faire des choses là où on est bon. Donc moi, c'est vraiment des choses que j'ai très vite repérées chez moi, tout ce côté comptabilité, administratif, même commercial. Et en fait, je me fais vraiment aider. J'ai très vite délégué ces parties-là. Et tout ce côté à foncer, avoir des nouvelles idées, le côté stratégie, comme c'est des choses où je suis très à l'aise. Et du coup, celui-là, je peux pas le déléguer. Et même si je m'associe un jour, je sais que je m'associerai pas avec quelqu'un qui a ces qualités, parce que c'est ce que j'aime et c'est là où j'aime passer du temps et développer ma boîte. Donc c'est vraiment ça. Enfin, déléguer, je dirais, les parties où on a des faiblesses et garder, mettre toute son énergie là où on a des forces. Et même chose pour l'association, du coup, de choisir quelqu'un qui a plutôt des forces là où on a des faiblesses.
Et toi, Sarah, t'as une idée
Moi, je dirais d'abord tout pareil que Laure.
Pour commencer.
Non, mais je vais complètement rejoindre ce que t'as dit. Savoir, en fait, comment on veut entreprendre, en fait.
Le fameux rire de Sarah, dont on ne se passe pas.
Non, mais je veux dire, est-ce que... la façon dont on va travailler, etc., est-ce que ça va nous convenir? En fait, savoir, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, mais est-ce qu'on est du matin? Est-ce qu'on est plus de l'après-midi? Quel est notre temps de concentration durant la journée? Et en ce sens, du coup, ça va un peu nous guider sur quel type d'entrepreneur on peut être, on peut devenir. Et au sens plus large, en fait, c'est hyper important de se connaître, parce que entreprendre, c'est tellement large. Tu peux entreprendre dans plein de domaines différents, mais qui tu es toi, ça va te dire où est-ce que tu dois aller, quoi. Enfin, nous, on fait des choses, on est entrepreneurs toutes les deux, mais on fait des choses complètement différentes. Moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais, toi non plus, à nous, d'ailleurs.
Mais un voilà. Point, comme tu dis, je trouve que c'est le côté de bien se connaître pour s'organiser, même la façon, par exemple, si tu sais qu'il y a des choses qui te stressent, peut-être de bien les identifier pour, quand tu sais qu'elles arrivent, pour pas qu'elles impactent trop ton travail, de mettre en place un peu des routines qui t'aident à t'apaiser. Et,
ouais.
Parce que c'est vrai qu'entreprendre, c'est tellement tourné autour de notre personne,
ouais,
que si nous, on ne va pas bien, la boîte ne va vraiment pas bien. Et c'est vrai que c'est aussi hyper important
nous,
de bien se connaître pour ça.
Ouais.
Pour rester au top au niveau bien-être mental.
Carrément. Je vous rejoins à fond. Et aussi, je trouve que là où c'est important de se connaître, c'est parce que on aspire toutes à avoir des vies et des tailles de business qui sont différents.
Ouais.
Parfois, on est un peu... on se dit, ah ben... Il faut avoir ce business qui fleurit et qui est hyper expansif et qui fait grave de thunes et tout ça. Alors qu'en fait, nous, on aspire peut-être plus à un petit business, à être solopreneur et pas à gérer toute une équipe et de vivre simplement. Et Laure, par exemple, toi, t'es maman, donc peut-être que t'as envie d'avoir des temps de qualité avec ton enfant. Donc de se connaître aussi en termes de quelle vie on a envie de vivre pour pas se faire avoir par des injonctions de success culture qui sont en fait pas forcément adaptables à soi.
Ouais, complètement. Faire un peu une liste de qu'est-ce qui est ma valeur la plus importante, en fait, et en fonction de ça, entreprendre à sa façon, en fait.
Ouais, complètement. Je pense que t'as tout à fait raison, Anouk, et je pense que nous, on est un petit peu sur ce modèle là en tout cas. C'est vrai que quand on en parle, on se rejoint pas mal. C'est hyper important. Moi, c'est une des premières questions que m'avait posé un de mes mentors, en fait, qui m'avait dit il faut vraiment que quand tu te lances, tu connaisses là où tu as envie d'aller, vers quel type en fait de business tu souhaites aller. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que dans 10 ans tu as envie que ça soit une énorme boîte avec plein de gens gérés, que du coup tu sois millionnaire, que tu puisses la revendre et t'acheter tes 2 ou 3 maisons? Est-ce que c'est un niveau un peu plus bas, ou est-ce que c'est une vie plutôt simple où justement tu as du temps pour toi, du temps de qualité à pouvoir aller à la plage régulièrement, profiter et se dégager ce luxe-là? Et je pense que ça, c'est hyper important d'en avoir conscience, de le définir, parce que ça définit complètement ta façon dont tu vas entreprendre. Et surtout, je trouve, de ne pas avoir honte d'avoir envie... Moi, je sais que j'avais pas envie d'avoir un business, d'être millionnaire et d'être... Dès le début, quand on m'avait dit « Est-ce que tu aimerais être dans une entreprise avec 50, 100 salariés si tes Ocean Therapy cartonnent et que tu fais, je sais pas, 1000 voyages par mois ?» Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, ça m'angoisse d'être enfermée dans un lieu physique, d'avoir plein de gens à gérer et du coup de plus être sur le terrain, de plus faire autant ce que j'aime. Et en fait, faut pas avoir honte de ne pas avoir envie d'être une entreprise que l'on va revendre des millions. On peut aussi trouver son bonheur d'une façon différente et avoir un succès, une réussite qui en sont tout à fait qui en sont tout aussi riches, en fait.
C'est vrai. Merci pour ça, les filles. Maintenant, on rentre dans une question un petit peu plus personnelle et puis un petit peu bousculante, mais j'avais envie qu'on aille droit au but. Donc, l'entrepreneuriat, c'est a rocky road. C'est quoi vos derniers fails? Parce que je suis persuadée que sous ces fails, il y a plein de leçons, il y a plein de cadeaux cachés. Et du coup, quels ont été vos derniers fails et qu'est-ce que vous avez appris de ces derniers fails?
Vas-y Sarah, je te laisse l'honneur.
En fait, c'est marrant parce que je trouve qu'avec le recul, sur le moment, t'as l'impression que c'est des énormes fails, mais en fait, comme ça t'apporte toujours quelque chose, finalement, ça se retire un peu des fails. Du coup, en parlant de...
Ça dépend de quel.
Bon, il y en a certains.
Il y en a certains qui restent des fails quand même.
Moi, je pense que c'est au tout début, quand j'ai lancé Alma Loi, que j'ai voulu, dès le début, en fait, vraiment créer un univers assez rempli, assez complet, et que je me suis mise à développer plein d'accessoires, de tapis, plein de choses différentes en fait, et que j'ai voulu trop me diversifier parce que je voulais vraiment créer tout un petit univers au lieu de me focaliser sur les choses qui marchaient alors qu'on était au tout début. Donc je pense premier fail, je me suis un peu éparpillée. Deuxième fail, je dirais quand j'ai fait des vêtements unis, parce que les gens aiment beaucoup moins.
Ah ouais.
Ouais. Et tout le monde me disait, tu veux pas faire un peu des unis? Parce que je pense que certaines personnes se retrouvaient pas dans mes imprimés assez forts et très très fleuris. Et du coup, j'ai sorti un ensemble uni. Et je me suis dit, ben, en plus, comme ça, on pourra matcher, etc., avec les autres pièces. Et en fait, c'est clairement celui que je ne vends jamais. Pas jamais, mais beaucoup moins que les autres. Donc je pense que, petite leçon une fois de plus, pour me dire de rester en fait qui je suis, de rester dans l'ADN de ma marque, et il y aura toujours des gens pour te donner des conseils, pour te dire « Ah, tu devrais faire ça, etc. » Mais il faut suivre ce que l'on croit au fond de soi-même. Et pas faire du nid, chez Alma Loi.
Les unis, c'est fini.
Du moins, pas pour le moment.
Okay.
Et je pense que le troisième, je peux pas en parler maintenant, mais
non, il est en cours.
Le fail du moment. La leçon n'est pas encore arrivée.
Non, mais troisième fail que j'expérimente là récemment, c'est je suis sur trop de choses en même temps. Du coup, vraiment fatiguée, j'arrive pas bien à communiquer et à faire les choses peut-être qualitativement.
Et du coup, la leçon de ça serait quoi pour toi?
Faire une chose à la fois et mieux communiquer. peut-être revoir ma façon de... revoir ma com, peut-être, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Peut-être me faire aider ou plus me renseigner, parce que c'est pas un métier que je connais. Et c'est ça qui est dur quand on est entrepreneur, c'est qu'on se retrouve à être super, super polyvalente, mais forcément, on y revient, il y a des forces et des faiblesses. Et c'est pour ça que c'est trop chouette aussi d'échanger ensemble, parce que là, typiquement, ce que tu me disais tout à l'heure, moi, j'ai vu ça chez toi, tu sais, pour l'event.
Ouais.
Je te conseille de faire comme ça, et effectivement, tu as raison. Parce que toi, c'est clairement ta force.
Et puis, on n'a pas assez de recul, je trouve, des fois. C'est tellement la tête dans notre business, on n'arrive pas à voir ce qu'on fait de mal, où il nous faut le temps. Et c'est vrai que le fait, quand on échange ensemble, quand on se retrouve, les personnes extérieures ont plus de recul, du coup, sur notre business et peuvent nous aider.
Mmh. C'est hyper intéressant.
C'est pour ça que c'est bien d'échanger entre nous.
Et toi, alors, t'es fail?
Mais fail Je vais rester sur ceux de cette année. J'en ai eu pas mal quand même. Je pense que un peu comme Sarah, je suis allée un peu trop partout, à me disperser. Et il y a des choses du coup que j'ai pas vues ou que j'ai pas anticipées. Je pense que moi, des fois, mon fail, c'est que je délègue un peu trop facilement. Je fais un petit peu trop confiance. Et en fait, j'ai tellement de travail que quand j'ai trouvé quelqu'un, j'ai tendance à 100% déléguer. Je me dis, bah, il doit mieux connaître que moi, donc un peu trop de confiance. Et je me dis, bah, il va savoir comment faire. Et là, il y a eu quelques fails où je trouve que j'aurais dû être plus derrière la personne pour checker. J'ai un peu, en début d'année, j'ai fait une très bonne fin d'année, un bon début d'année. Du coup, j'ai pas mal investi sur de la com, sur plein de trucs, sur délégués, etc. Et je trouve que je l'ai pas assez bien suivi. Et en fait, du coup, c'était un peu déceptif parce que j'ai pas eu de retour sur le retour sur investissement que j'espérais. Et ça a été un peu l'investissement un peu perte d'argent. Et j'étais un peu déçue. Et en fait, au lieu de prendre le sujet à bras le corps et de me dire ok, pourquoi ça a pas marché, de faire un vrai point et de demander un petit peu des comptes rendus, j'étais un petit peu sous l'eau et trop de choses à gérer. Je me dis, ah, ça me saoule et tant pis, je lâche affaire. J'ai pas envie de rentrer en conflit ou de chercher le pourquoi du comment. Et ça, c'est marrant parce que là, je suis un peu dans mes moments de bilan. Et je pense, tu me fais parler d'un truc sur lequel je suis en train de réfléchir seulement maintenant. Mais je trouve que j'aurais dû prendre sur ces deux, trois points-là où j'investis, faire un gros point avec la personne et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et de voir si on peut améliorer d'autres pistes ou s'il ne faut absolument pas refaire. Donc ça, c'est un bon fail où j'ai mis de l'argent dans des choses qui n'ont pas rapporté. Donc, un peu décevant. Un autre de mes fails cette année, ça a été aussi, je pense encore une fois, parce que j'ai un peu trop délégué, j'ai tendance à me dire « chacun sait ce qu'il fait ». Et je travaille avec mon agence de voyage qui gère super bien plein de choses, mais qui a aussi plein d'autres clients. Et en fait, il y a une date que l'on a mise au mois de mai, qui était sur un pont au Pays Basque, et tous les trains étaient complets.
Ah oui,
et en fait, Et normalement, le mois de mai, nous, c'est une de nos plus grosses périodes. En général, on en fait deux d'affilée, où on a une liste d'attente importante. Donc là, on avait loué une grosse maison qui coûte très cher à un particulier qui veut pas de conditions d'annulation. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué avec cette maison. Et en fait, à devoir communiquer, en fait, les gens nous écrivaient en nous disant « j'ai trop envie de venir, mais je peux pas, il n'y a pas de train, je peux pas me mettre 10 heures de route, évidemment. » Et en plus, moi, je voulais pas que les filles se mettent un stress de route pour venir, pour se détendre, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que cette partie-là, je me suis dit « t'as pas géré, en fait, c'est quand même à toi de regarder les week-ends de pont de mai, de regarder les trajets, de regarder les conditions d'annulation ou de briefer ton agence pour qu'on ait... » je sais pas, 30 jours, 45 jours d'annulation, parce que du coup, on a perdu de l'argent pour la première fois sur ce séjour, et je me suis dit, c'est vraiment trop bête. C'est important des fois d'investir, de donner du temps, de faire des choses, on fait des choses par gratuité pour faire connaître nos modèles, ou d'investir parce qu'il y a de l'argent derrière, mais là, c'est vraiment une bête perte d'argent, et ça m'a un peu... je m'en suis voulu à moi-même. Je me suis dit, j'aurais dû mieux anticiper, et par contre, en vrai, ça a été... une vraie source d'apprentissage, parce que maintenant on a des conditions d'annulation. Si on est en dessous de 6, c'est en fait, je me dis no stress. En vrai, moins de 6 personnes, il y a plein de fois où il n'y a pas de... c'est pas à cause de nous, c'est à cause de facteurs différents. On annule et du coup on passe du temps sur autre chose, on perd pas d'argent et on développe autre chose. Mais là, j'avoue que je m'en suis un petit peu voulu d'avoir encore un peu trop délégué. Et je pense, encore une fois, c'était un peu d'être dispersée partout et de me dire bon, l'agence a dû gérer les conditions d'annulation, on peut annuler, dernier moment, et pas du tout. Donc voilà, ça fait deux bons fails de début d'année. Et peut-être que le troisième est intéressant, c'était un moins gros fail, mais c'était plutôt... j'ai voulu développer un nouveau format de séjour d'Ocean Therapy, plutôt à destination des entrepreneurs. Et j'avais beaucoup de demandes. Et en fait, je pense que je me suis un peu concentrée sur la demande sans vraiment me rendre compte de... du prix que ces personnes pouvaient mettre, de vraiment si la cible pouvait correspondre. Et j'ai un peu lancé le produit, alors qu'en plus, je sais, dans mes études, j'ai quand même fait des études de marketing, qu'il faut étudier le marché, etc. J'ai un peu lancé le produit en me disant, bah, j'ai eu deux, trois demandes, ça va marcher. Et en fait, j'ai vu que ça prenait pas et j'ai compris pourquoi. Et je me suis juste rendu compte avec le temps que je l'avais lancé trop vite et qu'en fait, c'était un produit qui était trop une espèce d'entre-deux entre mon séjour classique où les gens viennent, et là c'est un séjour qui était du coup plus cher, mais où il n'y avait pas assez de contenu, pas assez, et ça n'allait pas dans la bonne cible. Et en fait, en parlant après avec les entrepreneurs, en parlant avec des personnes qui étaient concernées, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le bon produit adapté en fait, et que j'ai lancé un peu trop vite. Et je pense que c'est un produit que je relancerai sûrement l'année prochaine, mais où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand on veut lancer quelque chose de nouveau, il faut toujours vérifier qu'on soit dans le bon prix, dans le bon format et qu'il y ait la bonne demande, qu'il y ait le bon panier, qu'il y ait le bon panier d'argent aussi en face. Donc voilà, des bons apprentissages. Ça a été une année riche d'enseignement.
Franchement, merci. Je peux partager quelques fails, mais avant, j'avais quand même envie de rebondir sur ce que vous avez dit, parce que déjà, ben, merci, c'est des partages qui sont vulnérables, et je pense que c'est important, parce que je suis sûre qu'il y a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent, et qui se disent « Ah, mais moi, j'ai plein de merde dans mon business, et comment ça se fait ?» Et qu'en fait,
nous
ben...
aussi.
Welcome in the entrepreneurial world, my friend. Tu vois, c'est que ça, en fait.
Ouais, c'est que ça.
C'est que ça, et c'est que de l'apprentissage et de la mise en action, et voilà. Et je pense aussi, quelque chose qui ressort de ce que vous avez dit, qui est important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est un peu par nature des créatives. Et du coup, comme on est des créatives, on a souvent, généralement, c'est des gens qui ont 12 000 idées à la seconde. Et du coup, ben, notre point faible, ça va être vite qu'on se disperse. Enfin, je sais, parce que moi, au final, c'est la même chose. Et ça, c'est pas facile. Et du coup, voilà, ce qui ressort aussi, ben, c'est le fait de s'entourer. Et j'ai adoré aussi leur, t'as dit deux choses que moi, j'ai compris aussi il y a pas longtemps. C'est le fait que s'il y a des choses qui marchent pas, en fait, c'est pas de ta faute. Enfin, bon, si vraiment ça marche pas et ça marche pas et ça marche pas, faut se poser des questions, mais je veux dire, il y a d'autres facteurs, en fait, qui font que ça. Et en fait, faut se blinder quand même de manière légale sur nos business pour nous protéger. Ça, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi le fait que quand tu lances quelque chose, en fait, il faut s'assurer que ton marché, il soit là derrière. Ça, c'est mes number one rule. Et en fait, moi, je m'apprête à lancer quelque chose. Et donc là, j'ai vraiment appris d'erreurs de mon passé, parce que dans le passé, j'ai lancé des choses qui n'ont pas marché aussi. Genre, j'ai lancé un programme qui n'a pas super bien marché. Et enfin, de toutes les choses que j'ai faites, j'ai vraiment appris qu'aujourd'hui, il faut que je parle aux gens. Il faut que j'aille parler aux gens. Il faut que j'aille demander, en fait, quels sont leurs problèmes. Quels sont leurs besoins, vraiment. Parce que sinon, moi, je vais lancer un truc qui me paraît génial. Et en fait, ça va être pas dans la réalité des personnes que j'ai envie de toucher, ça va pas les toucher. Et à la fois, je dis ça parce que Laure et moi, on propose des services, qui est aussi de l'accompagnement, tout ça. Et à la fois, il y a le point de Sarah, qui était un peu opposée parce que elle, toi, tu fais du produit. Et en fait, toi, ce que les gens aiment, c'est toi. Et donc, il y a un peu cette espèce de double énergie où à la fois, bah, il faut être à l'écoute de sa cible. Et à la fois, il faut rester soi et pas se perdre.
C'est pour ça que les gens viennent acheter quelque chose. Super compliqué.
Et moi, mon dernier fail, il est intimement lié au vôtre. C'est que là, je suis un peu en PLS de ma vie parce qu'en fait, j'ai 12 000 choses. Et j'ai encore envie d'en rajouter.
Oui. Et ça, c'est...
Je suis sûre que toi aussi. Moi aussi, ouais. En tout cas.
Ça, c'est... Ouais. T'aimerais avoir quelqu'un côté de toi qui est genre vraiment ton énergie opposée et que qui te dit constamment « Non, Anouk. Non, Sarah. Non, Laure.
Mais
on ne sait pas ça. »
Mais tu serais énervée contre cette personne.
Oui, certes, mais au moins, j'aurais peut-être un temps de réflexion avant de lancer une autre idée, tu vois.
Et ben moi, j'ai un bon conseil pour ça. Ouais. Du coup, moi, j'ai souvent des rendez-vous avec des mentors. Donc, c'est des personnes de mon entourage que j'ai choisies parce que je les trouve inspirants pour leur business. Et du coup, j'ai des rendez-vous réguliers, donc c'est mensuel ou tous les deux mois. Et je présente, en fait, du coup, mes business, les chiffres et là où je veux aller. Et du coup, ça m'aide à prendre du recul avec quelqu'un qui n'a rien à voir dans mon business, qui est en général quelqu'un de plus structuré, de plus aussi un peu chiffre, etc. Et ça me permet vraiment de prendre du recul. Et des fois, il me dit, bah, va pas là, ça n'a pas de sens, tu perds de l'énergie. Ou là, vas-y, fonce, faut y aller. Et en plus de ça, ça me permet un peu de me recentrer parce que je sais que j'ai ce rendez-vous. Je sais que la dernière fois, je lui avais dit que j'allais aller sur ça, ça, ça. Et du coup, c'est un petit peu comme mon rendez-vous. Je me dis, ok, bah là, il m'attend. Il va me demander si j'ai bien lancé cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Donc, c'est pas mal de se faire... Moi, j'arrive... Avant, je le faisais tous les mois. Là, c'est difficile pour moi de le tenir tous les mois. Mais je le fais au moins tous les deux mois. Et j'en ai un régulier. Et après, j'en ai un deuxième que je vois. Et souvent, je lui demande des conseils. Mmh. Et ça permet vraiment de se recentrer sur son business.
Trop bien. Merci, les filles. On passe à une question un petit peu plus funky. C'est quoi qui a été un game changer dans votre parcours entrepreneurial? Parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les deux des business qui sont hyper, j'ai envie de dire, fleuris, pour rester dans la thématique de Alma Loua. Donc, qu'est-ce qui a été un game changer dans votre chemin entrepreneurial? Si vous avez, voilà, une femme qui nous écoute et qui a envie de step up, de quoi est-ce qu'elle pourrait se nourrir dans vos propres expériences?
Moi, je dirais que c'est l'écriture de mon livre, Ocean Therapy, qui m'a vraiment permis déjà de poser à plat et de réfléchir à qu'est-ce que je voulais offrir, de différenciant, de l'écrire et en plus d'avoir un vrai outil qui m'a permis aussi d'aller chercher des relations presse en fait et de dire voilà, j'ai un vrai livre qui est écrit avec des illustrations, je peux vous le proposer, en parler et si vous voulez découvrir cette méthode, bah, venez vivre l'expérience au Pays Basque, dans les Landes, au Maroc ou venez découvrir la plateforme. Et j'avoue que je l'ai sorti en 2019 et aujourd'hui je l'utilise encore tout le temps, dès que j'ai un événement important, je le ramène, je le montre. Et je pense que ça, c'est vraiment un super outil si vous avez l'occasion d'écrire un livre et de vous faire éditer. Mais après, vous pouvez même vous auto-éditer, c'est super. Et je sais plus, j'avais un de mes mentors d'ailleurs qui m'avait dit vraiment, ça fait un petit peu partie des super process quand on entreprend, d'écrire un livre sur ce qu'on fait, sur ce qui on est. Parce que c'est une vraie trace écrite et ça permet aux gens en fait d'identifier ce qu'on fait. Et c'est un super outil de communication. Et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où on est scotché, moi-même la première à nos écrans, ça fait beaucoup de bien d'avoir un format, un beau format papier. De ne pas avoir ces flyers qu'on avait avant, mais un beau format papier qui restera toute votre vie. Et vraiment, ça vaut le coup parce que ça, quel que soit votre métier, ça vous pose, ça vous oblige presque à écrire comme des mémoires, à prendre du temps pour vous. Et vous pouvez vous auto-éditer. Donc on s'en fout, et c'est ce que m'avait dit ce mentor, il m'a dit « on s'en fout même s'il n'y a eu que 10 exemplaires de vendus, mais il est là, c'est ton livre, c'est toi, il est dans ton salon, dès que tu as un contact avec un client, avec des gens, tu peux le ramener, et c'est un super outil.
» J'avais entendu dire que c'était une vraie carte de visite aujourd'hui, un livre.
Exactement.
Toi, Sarah?
Je dirais quand j'ai sorti la ligne de vêtements, je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis, si ça répond quand même à la question. Et particulièrement les leggings flair, parce que je pense que c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai notamment le tout premier imprimé que j'ai dessiné pour Alma Loua. Là, ça fait la troisième fois que je fais une production de ce legging, troisième fois que je fais une production de ce tapis. Donc je pense que c'est du coup le moment où cet imprimé s'est révélé best-seller entre guillemets. Et je pense que du coup, c'est un modèle que je garderai toujours chez Alma Loua dès que j'en ai plus un petit retour de stock, parce que c'est vraiment celui qu'on me demande tout le temps.
Et c'est vrai que tes pantalons un peu pas de def, tu les as lancés il y a longtemps et il n'y avait aucun pantalon pas de def. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ce qui a fait ça et ton motif qui t'a fait émerger parmi toutes les autres marques de Nivea.
En plus, je devais pas faire ça. J'ai vraiment, ça a été un changement de dernière minute. Je me suis dit, donc je voulais lancer bien sûr des leggings imprimés, et au dernier moment, je me suis dit, mais là, je sens qu'il faut que je fasse encore plus original que ça, pour vraiment que ça se démarque, parce que honnêtement, il y a tellement de marques de yoga, je me disais, mais là, pour que ça marche, en fait, c'est pas possible, il faut proposer un truc différent, parce que qu'est-ce qui va me démarquer?
C'est hyper
dans le too much, too much, too much.
Ouais, mais c'est ce qui est hyper intéressant, je pense, dans nos univers aussi, à toutes les trois. Et là, quand tu me dis ça, je trouve que moi, par exemple, dans les conseils que je donne quand je fais des coachings d'entrepreneurs, je dis toujours, en fait, il faut vraiment, ça se base sur nous, notre boîte, pour que ça marche, je trouve, sur notre personnalité, et de faire quelque chose de différent, de pas copier. Mais de vraiment faire quelque chose où c'est vraiment différent. Et toi, ton univers, je trouve que tes pantalons, c'est hyper chargé, c'est une coupe très particulière, mais c'est tellement différent que même s'il y a 1000 marques de yoga, t'es vachement émergé. Et moi, je pense que c'était à un moment où on parlait beaucoup de retraite de yoga, mais en fait, il y a personne qui parlait à ce moment-là de l'océan, des bienfaits de l'océan. Et en fait, je rabâchais que Ocean Therapy, Ocean Therapy, Ocean Therapy. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait émerger. Parce qu'en tant que séjour bien-être, j'aurais pas émergé.
Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça revient à ce que t'as dit aussi, Sarah, au début, c'est rester soi. Et tu sais, parfois, en business, on a toujours peur que quelqu'un nous pompe une idée. Et puis, en fait, ça arrive tout le temps. Ouais. Parce que, ben, on est inspiré par quelque chose. Donc, on a envie de ressembler. Donc, on a envie de prendre ça pour nous. Mais dans ton cas, par exemple... Toi, c'est tellement authentique parce que tu es cette marque. Enfin, si vous avez déjà rencontré Sarah ou si vous la suivez sur les réseaux sociaux, Sarah, elle s'habille tous les jours comme ça. Elle est too much. Elle a toujours 15 colliers, 12 bagues. Elle arrive en cours de yoga avec un sac. T'as l'impression qu'il est rempli de fleurs. Tu sais pas pourquoi. Et donc, même si quelqu'un essaye de faire quelque chose de similaire, jamais il pourra... faire complètement toi, bah oui, parce qu'en fait c'est toi et
mais
ça
monde,
c'est
fait.
Fantastique
ouais.
Voilà,
une fois qu'on a compris ça, je pense que c'est une peur qui s'en va en fait, parce que personne peut te voler toi.
Non, ils peuvent essayer mais ça fonctionnera jamais sur le long terme parce que ça peut pas être durable quand on essaye de s'approprier l'identité de quelqu'un. Et même moi, je vois, tu vois, je suis quand même yoga, surf, au final avec Laure, on a des univers qui sont très différents. Parce que moi, je me connais, Laure, elle se connaît, et du coup, je pense que c'est assez complémentaire, on n'attire pas les mêmes personnes, et moi, tu vois, j'ai un univers pirate, animal totem, enfin, je veux dire, allez essayer dans votre business, si c'est pas vous, déjà, ça sera bizarre et ça durera plus longtemps, alors que moi, c'est moi, en fait.
Parce que déjà que c'est bizarre...
Donc ça, je trouve que c'est vraiment... J'avais entendu un business que ça s'appelle Blue Ocean. C'est en fait quand tu vas dans... t'as des mers rouges. Les mers rouges, c'est en fait, il y a trop de monde. Et du coup, en fait, le business, le marché, il est saturé. Mais à côté, il y a toujours un océan bleu. Et l'océan bleu, en fait, c'est vraiment ce qui te démarre complètement, là où t'es complètement unique. Et du coup, t'es inimitable. Et je trouve que c'est
hyper intéressant.
Et du coup, d'être dans ton authenticité, en fait, tu peux plus vraiment... Enfin, t'as de la concurrence, mais tu sors du lot, quoi qu'il arrive, d'une certaine façon.
Et heureusement qu'il y a de la concurrence tout le temps, parce que ça veut dire que...
Oui, ça te tient
un marché, en fait, aussi.
Ouais, je trouve que ça te... J'écoutais des podcasts où ils disaient que c'est vrai que la concurrence, ça te permet aussi de te stimuler, de te développer, de pas stagner, en fait, et de continuer à t'enrichir et à développer des nouvelles idées. Et c'est hyper... c'est pas facile, hein, des fois, quand on voit des gens qui font... où t'as l'impression que t'es imité ou copié. Mais je pense que, comme tu dis, c'est... Déjà, on peut pas nous voler, nous. Ouais. Et il faut rester dans son authenticité et se dire, voilà, je reste droit dans mes bottes, je fais ce que je connais, ce que je sais faire. Et il y a de la place pour tout le monde. Et après, je pense que ce qui est hyper important, notamment quand tu parles par exemple de pirate ou de ce côté chaman ou du côté de Sarah avec son univers, en fait, c'est ça qui fait pour moi aussi qu'on arrive à émerger en tant qu'entrepreneur, surtout en tant que solo-entrepreneur. Parce qu'après, les grosses boîtes, etc., les grosses marques, c'est différent. Mais pour moi, pour vraiment réussir à fonctionner dans des univers où il y a quand même aussi du monde, enfin, nous, dans le bien-être, il y a du monde, dans le yoga, dans les habits de yoga, c'est pareil. je trouve que ce qui est hyper important, c'est de vraiment marquer son entreprise avec son identité et de ne pas oublier ça. C'est hyper important de s'enrichir, de s'inspirer, mais de se dire « Ok, en fait, je mets vraiment mon identité dans ma boîte, dans ma façon de faire, parce que il y a forcément des gens qui vont adorer ça. » Et il y a des gens qui vont détester, et ces gens-là, ils iront ailleurs, et ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais il y a des gens, du coup, qui vont adorer votre façon de faire, et ces gens-là, ils seront fidèles parce qu'ils aiment ce que vous faites.
Complètement. Et d'ailleurs, les gens qui viennent sur tes séjours, ils viennent pour toi.
Oui.
Ils viennent pour toi. Ouais. Et aussi, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui commencent leur business et qui n'osent pas partager d'elles.
Oui.
Tu sais, qui osent pas se mettre dans leur business, elles se mettent en retrait. Et même toi, Sarah, dans ta marque, ben, c'est Alma Loi, label by Sarah Vidal. Donc tu te mets, voilà, t'es là, quoi. On sait que c'est toi, il y a quelqu'un derrière le business, c'est relatable. Ça, je pense que c'est important. Et moi, j'avais fait des cours en marketing aussi, et il m'avait fait réfléchir sur toutes les petites choses un peu bizarres qui font mon unicité. Tu vois, ce que j'aime, ce que je fais un peu de chelou. Et en fait, que c'est ça qui est important de mettre en avant, parce que comme tu dis, il y a des gens qui vont détester, mais il y a des gens qui vont adorer et
qui vont s'identifier.
Qui vont s'identifier, ouais. Exactement. Ça, c'est super important.
C'est un super conseil.
Ouais.
J'adore. Un peu de chelou d'être poussé en avant. Non, mais c'est génial, en vrai. C'est ce qui fait qu'on est différent.
Ouais.
Bah, j'avoue, j'adore ce côté pied.
Moi aussi. Maintenant, rentrons dans le day-to-day. Moi, j'aime beaucoup savoir quelles sont à la fois les routines et les outils que mes amies entrepreneuses mettent en place. Est-ce que vous pouvez nous guider dans une journée type, même si je sais qu'il n'y a pas de journée type vraiment en tant qu'entrepreneuse, mais prenons une journée là que vous avez vécue récemment. De quelle manière ça s'organise ? Peut-être depuis le lever, est-ce que vous avez une routine matinale ? A morning routine.
Je l'attendais tellement.
Je dis ça parce que dans l'épisode de ma routine matinale que vous pouvez écouter sur le podcast, je dis... comme on dit en français, morning routine. Et on ne dit pas morning routine, on dit routine matinale. Et ça a fait beaucoup rire Sarah Vidal. Et du coup, voilà, elle avait vraiment envie que je le dise. Donc, votre morning routine, votre journée, comment est-ce que ça s'organise?
Moi, je dirais même ma semaine, je pense que ça, je l'ai appris avec le temps. C'est que j'ai, bah, comme nous toutes les trois, j'ai beaucoup de choses et de business un peu différents, toujours autour de l'océan, évidemment, et du bien-être. Mais du coup, j'avais du mal à me dire par quoi je commence, tellement il y a de choses. Et j'avais appris ça avec le réseau F Collectif d'entrepreneurs qui m'aidait un peu à me structurer. C'est de faire un agenda type de semaine que l'on peut avoir en mettant du coup le lundi matin. Je sais que par exemple, je fais ma to-do et tout ce qui est newsletter pour mes abonnés où je vais envoyer toutes les nouvelles. Le midi, du coup, je me fais soit pause-déj avec quelqu'un, soit un surf. Et l'après-midi, je sais plus ce que c'est, mais c'est genre création de contenu. Le mardi matin, c'est compta. Le mardi après-midi, je travaille que sur les séjours business, etc., etc. Et du coup, évidemment, j'arrive pas à le tenir exactement tel qu'il est, mais vraiment, tous les lundis matins, je me pose dessus et je regarde un petit peu comment j'organise mon temps et je me dis, ok, là, c'est 2 heures pour faire ma newsletter. Là, c'est 2 heures pour créer un nouveau reel. Du coup, maintenant, je vais faire attention à mon accent. Franchement, en plus, je crois que quand je donne des cours de yoga, j'ai un salty miracle morning. Je vais penser à toi maintenant, je vais te dire un peu mieux. Salty miracle morning. Mais ça m'a beaucoup aidé en fait, d'avoir une vision de ma semaine et de vraiment m'organiser en me disant, OK, là, je suis sur tel projet. Demain, je me mets sur ce projet de business. Après-demain, c'est des programmes en ligne et ça me permet de mieux m'organiser. Et après, dans la routine du matin, j'ai appris avec le temps. Quand j'ai commencé mon business, je me faisais un petit peu... je me levais, je bossais. Je pense que j'en parle peut-être dans l'épisode que j'avais fait avec toi. Et en fait, je passais trop de temps derrière l'ordinateur et je prenais plus de temps pour moi. Et on parlait de bien-être mental, justement, ça m'a un petit peu mis à mal. Et ça m'a... c'était un petit peu une période difficile. Et ça m'a appris, dans ces tout débuts d'entrepreneuriat, de prendre du temps pour moi et que c'était vraiment essentiel, moi, le matin, d'être en mouvement. Et je sais que j'ai vraiment aucune problématique à travailler et je peux travailler des fois le soir, mais du coup, j'ai décidé en fait de mieux m'organiser et de me prendre vraiment du temps de qualité pour mon bien-être et du temps aussi de plaisir. Et ça, c'est hyper important parce que quand on entreprend, notamment au début, on a tendance à vouloir aller à 1000 à l'heure, à être sur tous les champs de bataille et des fois à s'oublier. On n'ose pas faire, je sais pas, un moment de surf ou un cours de guitare ou parce qu'on se dit, mais non, j'ai encore du travail. Et c'est hyper important de faire des choses qui nous font du bien, de pas culpabiliser là-dessus. Donc moi, j'ai de la chance, ben, comme nous trois, on habite près de l'océan et moi, j'ai vraiment besoin d'océan, comme vous l'aurez compris. Donc, franchement, j'organise ma semaine par rapport à la météo et aux conditions. Donc, s'il y a du surf, j'organise tous mes rendez-vous et mon agenda par rapport au surf. S'il n'y a pas de surf, du coup, c'est de la baignade. Donc, j'organise mon agenda par rapport au fait d'aller baigner, de me baigner, de nager dans l'eau. Et ça, c'est vraiment des moments où j'ai zéro culpabilité. Et je le dis parce que je me rappelle vraiment qu'au tout début, je culpabilisais à fond de prendre ces moments. Et aujourd'hui, quand je les prends, même si c'est en pleine journée, même si c'est le lundi matin et que tout le monde travaille, je ne culpabilise pas parce que je sais que je travaille assez, je fais ce qu'il faut. Mais par contre, je sais que ces moments-là, ils vont tellement me ressourcer que ça va me permettre d'être super efficace après. Donc, zéro culpabilité quand vous prenez ces moments. Et moi, je sais que j'ai vraiment besoin de... Une fois que j'ai organisé tous ces moments sur ma semaine, je suis hyper tranquille et je me dis le matin, je me lève. Je fais toujours quand même un petit peu de mouvement au yoga le matin. Et après, en fonction de mes plannings autour de l'océan, de surf ou de bain ou de balade, je travaille. Et je prends du temps aussi pour mes proches, c'est important. Je travaille jamais plus maximum de 3 soirs. Parce que des fois, je prends un peu plus de temps le lundi, mardi, mercredi pour les activités nautiques. Et du coup, j'ai tendance à travailler le lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Mais jamais au-delà, parce que pour moi, après, c'est du temps avec la famille et les amis.
Et toi, Sarah ? Alors, moi, je suis moins organisée que toi, Laure. Mais ça m'inspire vachement ce que tu dis. Et en plus, à chaque fois, tu m'en parles de ce planning. Et à chaque fois, je me dis, faut absolument que je le fasse. Mais je n'ai toujours pas réussi. C'est un projet pour le futur. Mais bon, j'essaie quand même de plus en plus de m'organiser. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, moi aussi je culpabilisais énormément avant quand en fait j'étais par exemple épuisée, que clairement me poser derrière mon ordi et essayer de faire toutes les tâches que j'ai à faire, ben enfin ça n'allait pas fonctionner, clairement j'allais pas du tout être productive. Mais je culpabilisais quand même, donc je restais derrière mon ordi et j'essayais de le faire et c'était dur et j'avais pas envie du tout. Et maintenant, j'ai compris que, pour revenir sur la question numéro 1, quel type d'entrepreneur es-tu ? Moi, parfois, je suis un peu une acharnée, donc je vais réussir à travailler énormément, 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 mais quand j'en peux plus, en fait, j'en peux plus. J'ai besoin de me ressourcer. Et si je prends pas ces moments, mais je vais jamais réussir à me ressourcer. Et ça va me mettre dans des états... je vais tomber malade ou je vais être dans des états de fatigue, mais extrêmes. Je vais me blesser, etc. Donc j'essaye comme toi aussi maintenant de m'organiser ces temps durant la semaine. Je regarde moi aussi la météo. Mais s'il y a une journée, même si c'est, je sais pas, un mardi... où je sens que là, vraiment, mon énergie est très, très basse et que ce qui va me faire du bien, c'est d'aller à la plage, d'aller dessiner. Ben, en fait, j'essaye de me dire, mais j'y vais. En fait, tant pis, ça décale les journées, ça décale les choses. Mais là, le plus important, en fait, c'est d'être heureuse et c'est d'aller bien, quoi. Et parfois, on le perd un peu de vue, mais c'est le but de la vie. Et si on est entrepreneur, c'est aussi pour avoir ces libertés qui nous rendent heureuses, en fait.
Ouais, complètement.
Et donc voilà, je n'ai pas de... Toutes les journées ne se ressemblent pas, mais pour dire un petit peu, disons la journée du lundi, parce que c'est le jour où je donne cours chez Yogamar, donc je me lève. J'essaye aussi de faire soit une petite méditation, soit un exercice de respiration. C'est toi qui m'as beaucoup inspirée là-dessus, Anouk. Et donc ensuite, souvent le lundi, je prépare les commandes du week-end. Ce que j'aime bien faire, parce que je rajoute des petits cœurs, etc., des petites fleurs.
Et ensuite, je pars travailler au coworking. C'est aussi quelque chose que je fais depuis peu et qui m'aide énormément. Donc, je vais bosser dans un coworking. Avant, je bossais énormément chez moi ou dans les cafés. Et le fait d'être entourée de personnes qui travaillent aussi, d'être dans un lieu qui n'est pas chez moi, donc c'est-à-dire que je ne peux pas partir faire tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, une machine ou aller laver mon évier. Chose qui m'arrivait souvent. Et tout d'un coup, je me disais, mais tu fais quoi, là? Donc, au moins, je suis vraiment dans un espace. Tu sais, je me perdais. Je suis dans un espace où je suis là pour travailler, en fait. Et généralement, je suis là pour faire les tâches que je n'aime pas faire. Parce que le dessin, etc., j'ai toujours du temps pour ça. Donc, j'essaye de vraiment prendre ce temps précieux pour accomplir toutes les tâches que je n'aime pas trop faire. Après, je rentre, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus clair, j'ai la tête qui va mieux. et ensuite, je rentre souvent le lundi, je prépare mon cours, je pratique un petit peu aussi, et je pars donner cours chez Yogamar le lundi. Et autre chose que je fais énormément aussi, et c'est toi qui m'as inspirée là-dessus, Anouk, c'est des postures de yin dans mon lit avant de m'endormir. Mais ça change tout. Parce que je suis quelqu'un de... Même si ça se voit pas forcément d'extérieur, quand on me connaît, je pense que ça se voit... Que tu le sais tout de suite, enfin que ça se voit beaucoup plus. Mais je suis assez anxieuse et j'ai plein de choses dans la tête. Et j'ai souvent eu du mal avec le sommeil. Et donc le fait de faire des postures de yin, mais après je m'endors comme un bébé. Et mon sommeil est beaucoup plus réparateur.
Je confirme pour les postures de yin dans le lit.
Ouais.
J'ai du mal à faire le yin, mais quand on fait du yin dans le lit, je trouve que c'est vraiment un moment où tu sens que tu relâches toutes les tensions. Parce que c'est vrai que c'est un bon point. Je trouve que c'est difficile des fois de bien dormir quand tu es entrepreneur, de couper au niveau du mental.
En fait, c'est ça, tu coupes pas. Jamais.
Ouais. Et c'est vrai que les outils du yin, d'avoir un coworking, tout ça, ça te permet quand même d'apaiser ton mental qui est constamment en train de penser à la prochaine commande que tu dois faire ou répondre à cet email. Et au final, il y a cette espèce d'anxiété de l'entrepreneur, je vois, qui est un vrai truc en fait. Et dont je pense peu de personnes parlent de santé mentale en tant qu'entrepreneur. Et quelque chose que vous avez mentionné aussi que j'ai adoré, c'est le fait qu'en fait ben, ça sert à rien de travailler, de faire un truc si toi t'es pas bien. Et tu l'as dit aussi Laure au début qu'en fait le business c'est toi. Et moi je pars vachement du principe que l'énergie dans laquelle on est, c'est l'énergie qu'on met dans nos business. Et en fait c'est cette énergie là qui est hyper importante et dont on doit prendre soin. Et j'avais vu, je crois, un post Instagram qui disait « Aujourd'hui, je me pose la question de « Est-ce que je suis assez reposée pour travailler ?» Pas « Est-ce que j'ai assez travaillé pour me reposer ?» Et je trouve que le mindset, le fait d'intervertir ces mots, il est hyper important parce qu'en fait, c'est ton énergie, elle va être au service de ce que tu vas offrir au monde. Et donc, t'as envie qu'elle soit clean, t'as envie d'être bien et t'as pas envie d'être là à forcer à donner un truc. Et moi, parfois, quand je suis pas au top de ma forme, je vais faire des tâches assez chiantes qui demandent pas une qualité d'énergie, mais de juste faire de l'exécutif. Par contre, quand je dois répondre à des messages ou être plus voilà, dans quelque chose qui est du fait de ma meilleure énergie, là, je vais m'assurer que ça soit aligné, quoi.
On a quelque chose à dire par rapport à ça?
Non, j'ai adoré cette question aussi.
Donc notre prochaine question, c'est qu'est-ce qui est challengeant pour vous en tant qu'entrepreneuse? Peut-être qu'il y a des choses qui vont encore ressortir. Et du coup, je vous pose en même temps la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est le plus kiffant pour vous en tant qu'entrepreneuse?
Alors, pour moi, le plus challengeant et le plus difficile, je pense que c'est la solitude. Et c'est vrai que j'ai adoré, j'étais en poste avant en marketing dans une grande boîte et j'adorais mes collègues et j'adore les gens, j'adore être entourée de gens et je vis pour ça. Et c'est vrai que dans mon métier, il y a quand même toute une partie où je suis en contact avec les gens pendant mes séjours, pendant les séminaires, mais une partie où en fait je prépare tout ça et je suis derrière mon ordinateur Et ces moments où je suis seule, j'ai beaucoup de mal. Donc je travaille beaucoup avec mon conjoint à la maison, on a un bureau. Mais là, je suis vraiment en train de mettre en place, c'est ma mission là de la rentrée, de plus travailler, dans, comme tu disais Sarah, dans un coworking pour de nouveau travailler avec d'autres entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus. Avant, j'étais à Lille et j'avais tout un groupe d'entrepreneurs, on se retrouvait vraiment régulièrement. Mais là, je sens que j'arrive à un niveau en ayant déménagé où je vous vois le mercredi, mais je vous vois pas assez. Voilà, c'est une petite déclaration. Non, mais j'ai vraiment besoin de plus d'être en contact d'entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est un super conseil aussi que je peux vous donner. Parce que même si je travaille avec mon conjoint, qui est sur un métier complètement différent, créatif, et qui est en CDI, salarié, en fait, être entouré d'entrepreneurs et travailler avec des entrepreneurs, ça nous tire vers le haut, ça nous booste. Donc, je pense pas que je le ferai 5 sur 7, mais dans mon planning, je me dis bien, 3 jours sur 7, du lundi au mercredi, peut-être que les après-midi. Là, c'est ma résolution pour l'automne. Et quel est mon plus gros kiff en tant qu'entrepreneur? Je pense que clairement, c'est la liberté. Et à chaque fois que le business merdouille, qu'il y a plein de soucis, où je me dis, est-ce qu'un jour je vais devoir reprendre un travail? Je me dis, non, en fait, je vais me battre pour ça. Je vais faire en sorte que ça continue de fonctionner, continue d'évoluer, parce que j'aime tellement cette liberté. Je trouve que c'est incroyable d'adapter son travail à son mode de vie. Moi, j'ai vraiment besoin, comme je le disais, d'être en mouvement le matin, vraiment d'être dehors, de marcher, de faire du yoga, d'être dans l'eau. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile d'avoir ce mode de vie quand on est salarié. Des fois, j'ai vraiment besoin de pouvoir couper toute une matinée et travailler le soir. Ça aussi, c'est un petit peu difficile. Donc, cette liberté-là, plus la liberté de faire quelque chose que j'aime et de le faire évoluer, je crois que c'est... j'arriverai pas à le quitter. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis heureuse, c'est qu'aujourd'hui, c'est... le fait de travailler, pour moi, c'est pas quelque chose que j'associe à quelque chose de négatif. Pour moi, le travail, c'est un kiff. Et pour ça, j'ai besoin de continuer à faire vivre mon entreprise longtemps, parce que c'est la vie de kiffer travailler. Enfin, que le travail, ça soit pas associé à quelque chose de négatif et de péjoratif. Tous les lundis, je suis surexcitée de pouvoir reprendre et de proposer des nouvelles choses, de bientôt rencontrer des nouvelles personnes en retraite. Voilà, c'est bonheur de faire ce métier-là.
Bah, franchement, moi, ça te rejoint complètement. Ce qui est le plus challengeant pour moi, moi, maintenant, je suis au coworking et vraiment, ça m'aide énormément. Mais il y a toujours ce truc de c'est moi face à moi-même et parfois je me mets une pression énorme parce que si tu les fais pas, toutes les tâches que tu dois faire, il y a personne derrière toi qui va dire « t'as oublié ça, et puis il fallait faire ça ». Donc ça, c'est très dur pour moi. Parfois, j'ai l'impression de porter beaucoup de choses sur mes épaules. Mais bon, enfin, à mon échelle, hein, là, j'en fais 3 tonnes comme si je devais sauver le monde, mais...
Non, mais t'as beaucoup de choses.
Mais ça, ouais, c'est ce que je trouve le plus challengeant. M'organiser aussi, c'est un peu dur. Mais j'y travaille. Et par contre, le plus gros kiff, mais c'est la liberté aussi. Franchement, pouvoir organiser toutes mes journées comme j'ai envie de le faire, même si bien sûr j'ai des impératifs et je m'y tiens. Mais oui, si mon week-end j'ai envie de le prendre en semaine, ben je le fais. Et le week-end je travaillerai. Enfin, en fait, c'est vraiment pouvoir avoir pas de limite d'adaptabilité de la semaine. Et aussi, comme toi, je me dis, mais c'est Alma Loua, c'est tellement mon bébé, pouvoir vivre de quelque chose qui est 100% ce que je crée, en fait. J'ai aucune... Il n'y a personne qui me limite dans ma créativité, et ça, c'est, je pense, ma plus grande joie. Et ça serait dur aussi de revenir à autre chose. C'est pour ça que je suis encore là.
Merci pour vos partages. Moi, de mon côté, je pense que le truc qui est le plus difficile, c'est de pas avoir quelqu'un d'autre en face de moi qui me dit « Eh ben voilà, tu dois faire ça, 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 et pour le futur, tu feras ça, ça, ça. » C'est en fait toute cette incertitude auquel l'entrepreneur il doit faire face et l'anxiété qui vient avec et les prises de décision que
moi, je dois apprendre, mais en fait, j'ai l'impression que je sais rien, en fait. Et ça, se retrouver face à ça, c'est... parfois, c'est difficile de gérer le stress qui vient avec ça. Et bien sûr, je vous rejoins sur le fait d'être assez seule. Moi aussi, une de mes bonnes résolutions, c'était de m'inscrire à un coworking, parce que même si nous, on se voit de temps en temps, c'est vrai que c'est pas la même chose de se dire « Bon, allez, là, j'ai du temps libre et je vais aller bosser. » Et d'être entourée par ces entrepreneurs aussi, on bosse beaucoup mieux. Et après, je dirais, le truc qui me fait le plus kiffer, pareil, c'est la liberté. La liberté dans tous les sens, dans le sens où je peux créer toutes les choses qui me viennent depuis mon intuition et c'est moi qui décide de tout. J'ai la liberté de mon emploi du temps, mais j'ai aussi une liberté de rêver financièrement, de me dire, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, bon ben voilà, tu vas être payé 2000 euros ce mois-ci et c'est tout et c'est moi qui gère ce chèque-là, mais de me dire, ok, combien de personnes est-ce que j'ai envie de servir avec mes offres, jusqu'où est-ce que je peux aller, et d'avoir cette, voilà, cette capacité de pouvoir rêver grand et de rêver à l'image que j'ai envie de donner de ma vie, et ça, je trouve que c'est priceless.
Wow, c'est bien dit. J'adore.
On va dire que c'est notre dernière question, parce qu'après, sinon, on va passer 4 heures de podcast.
Et on pourrait, on en serait capable.
On aurait juste chaud, parce que je tiens à vous dire qu'on a toutes les trois, c'est chaud. Mais on a dû fermer la porte-fenêtre pour pas que ça fasse trop de bruit. C'est le but d'enregistrer aussi chez soi. Il faut créer ce petit univers podcast. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui est entrepreneur, quels seraient 3 conseils que vous donneriez à cette femme qui nous écoute, qui a peut-être lancé déjà un petit peu son activité ou qui s'apprête à la lancer? Vos 3 conseils.
Alors, les 3 conseils... je dirais que le premier, c'est hyper important justement en parlant de solitude, de s'entourer et de bien s'entourer. Même si vous n'avez pas dans votre entourage des amis entrepreneurs, c'est vite, vous pouvez très rapidement trouver des réseaux entrepreneurs, des réseaux en ligne, des réseaux dans votre ville et ça va vraiment vous booster. Ne restez pas seul et entourez-vous bien. Le deuxième, je dirais un très terre à terre mais qui est hyper important parce que j'ai vu plein de personnes autour de moi ne pas avoir conscience de ça et être un petit peu détente, c'est d'avoir une réalité aussi financière, de vous dire en fait de combien j'ai besoin pour vivre et qu'est-ce que je peux générer, créer pour gagner cet argent. Parce que souvent, il y a des gens qui se lancent et qui des fois ont 2 ans en fait, d'aide ou de chômage et en fait 2 ans, ça peut aller hyper vite et qui n'ont pas du tout vu ce côté un peu financier parce qu'on n'ose pas trop parler d'argent ou qu'on... Et en fait, quand on se retrouve dans la réalité de devoir ensuite payer un loyer... et que la fin de ces aides arrive, on est un petit peu stressé. Donc c'est vraiment important de construire un business fiable qui vous permette de vivre correctement et sans stress. Et le troisième, je pense que c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir votre propre business, incarnez-le, mettez vraiment toute votre personnalité dedans, comme disait Anouk, que j'ai adoré, genre... Ouais, écrivez, réfléchissez à qu'est-ce que vous faites de particulier, de chelou, comme tu disais, et mettez-le dans votre business. Et plus vous allez incarner votre business avec votre personnalité, plus il va être différent et vous allez émerger. Parce que pour moi, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous lancer, si c'est vous et qu'il est différent, vous allez forcément marcher et cartonner. Et surtout, kiffer.
Wow, la classe, j'adore,
c'était trop bien. Ouais. Je l'ai révisé, elle m'a envoyé des questions hier. Je l'ai pitché 4 fois dans mon lit.
Non, en plus, c'est même pas vrai parce que cette question, elle était. Ouais, c'était pas vraiment.
Non, mais c'était trop bien. Alors, moi, mes 3 conseils, ça va être moins business. Je n'avais pas pensé à tout ça. Mais c'était très bien dit. Je suis d'accord avec toi, encore une fois. Je dirais, pour revenir encore sur ce qu'on a dit, rester complètement authentique. Mais si finalement ça te rejoint aussi, faites vos petits trucs chelous et montrez-le. Au monde entier. Ah, j'ai oublié le... Oui, ne pas trop écouter l'avis de tout le monde autour de vous. Parce que si on passe son temps à demander l'avis de nos proches, de nos amis, bah déjà, ce sera que des avis différents. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant et on peut se sentir perdu sur qu'est-ce que je propose, qui je suis, en fait. Finalement, peut-être que c'était pas une si bonne idée. Et je pense que en fait, si on entreprend, c'est vraiment parce que on a cette idée et on se dit, ben, en fait, ça va marcher, quoi. Donc, si on écoute trop les autres, surtout au tout début, où rien n'est encore trop construit, ben, c'est,
pas forcément une bonne idée. Et le troisième point, je dirais vraiment prendre soin de soi. Pas s'oublier dans le lancement de son business. Continuer de bouger, d'aller se promener, de bien manger, de bien dormir. Vraiment faire passer son bien-être avant tout, parce qu'en fait c'est ça qui va faire qu'on va tenir sur la durée et que ça va marcher.
T'as tellement raison. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, je pense, des moments où au début, quand on se lance, on culpabilise, et je pense qu'on l'a ressenti toutes les trois, et ça c'est vraiment un bon conseil si vous lancez. Attendez pas de culpabiliser, c'est juste prenez soin de vous, parce que c'est pas de bien-être, pas de santé, pas de business. Et moi, limite, c'est ce que je me dis quand je pars me baigner ou surfer, je me dis, c'est pour le bien-être de ma société.
Genre en pleine expérimentation.
Non, mais c'est vrai, c'est important de savoir se ressourcer.
Et puis, il faut vivre au-delà de ça, quand même.
Êtes-vous assez reposé pour travailler?
Ouais, c'est clair. Faut la vivre, la vie. Pas s'oublier dans le business.
Ouais. Non, c'est vrai, c'est trop juste. J'adore. Moi, je pense que un des trucs que je dirais qui est hyper important, que je faisais pas vraiment au début, mais c'est take yourself seriously. Parce qu'il y a beaucoup, même moi, je reçois des messages de femmes avec qui je pense peut-être travailler, et en fait, je sens, parfois juste énergétiquement, que c'est flaky. Qu'elles sont là, oh, un petit peu de... Et peut-être que... voilà, si tu veux... En fait, c'est pas... Bam, bam, c'est ça, c'est clair. Et bien sûr, ça demande de la confiance en soi, d'arriver à faire ça. Mais en fait, c'est comme ça aussi que du coup, l'autre personne va avoir confiance.
Ouais.
Et en fait, si t'es flaky, si t'es pas sûr de toi et de ce que tu fais, ça va sentir et tu vas galérer. Donc d'apprendre à mettre tes limites, à pas, surtout en tant que femme, parfois on est un peu là, voilà, mais peut-être qu'on peut s'arranger, tout ça. Non, en fait, tu veux mon service, tu veux mon produit, c'est ça. Et ça, je pense que... Alors oui, au début, peut-être que ça peut être un peu compliqué, mais vite, il faut prendre le coup. Et moi, je connais des femmes qui ont commencé et qui ont été comme ça, voilà, rapidement. Et du coup, leur business marche. Mais si tu fais pas ça, pour moi, ton business, il va pas marcher. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ben, du coup, c'est pareil, un peu en contraire de ce que t'as dit, mais à la fois, je pense, enfin, c'est pas en contraire de ce que t'as dit, mais ça pourrait y ressembler. Dans le sens où moi, je dirais, c'est parler aux gens.
Oui.
Mais parce qu'en fait, toi, déjà, t'es dans un produit, et en même temps, toi, de ce que j'entends, c'est « be bold, be you ».
Oui.
Et moi, là où je veux en venir dans mon deuxième conseil, c'est parler aux gens, parce que, en fait, ne faites pas des choses juste parce que vous pensez que c'est bien, mais en fait, ça répond à aucune problématique, ça répond à aucune... En fait, vous servez personne. Et pour moi, aller parler aux gens, mais pas, erreur que j'ai fait aussi, pas aller parler à, par exemple, un de vos parents qui clairement ne fera jamais votre séjour, qui n'est pas du tout dans votre niche.
En fait, c'est ça que je veux
voilà,
dire plus.
Voilà, ouais. Qui va vous donner son avis, mais en fait, il n'a aucune valeur par rapport à ce que vous allez créer. Mais allez parler à votre niche, aux gens à qui vous allez servir, parce que vous allez vraiment pouvoir comprendre leurs problématiques, leurs mots, là où ils galèrent. Et du coup, vous allez pouvoir apporter une solution au monde. Et c'est là où le business, il a du sens, parce qu'il aide quelqu'un, en fait. Ou alors il apporte de la joie avec quelque chose qui est de l'ordre de l'hyper créatif avec par exemple tes produits. Donc ça pour moi c'est ça serait mon deuxième conseil. Et puis le troisième c'est de rien lâcher. Goodness. Genre
ça c'est pour la vie.
Et ça c'est pour la vie et en fait l'entrepreneuriat c'est une course d'endurance. C'est un ultra trail. Mais genre, tu t'as pas d'arrivée. T'as des stops, t'as des ravitaux.
C'est trop ça.
Mais t'as pas d'arrivée.
Et t'as des trous dans la chaussée.
Voilà. T'as des moments, tu t'arrêtes, tu pleures.
Ouais.
Mais tu te relèves et t'avances.
Et t'as des mains tendues qui viennent t'aider à courir un petit peu.
C'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça important parce que ben, tu vas avoir des fails, comme on a partagé dans l'épisode. En fait, c'est bourré de fails. Mais il faut s'accrocher et aussi, il faut trouver de la régularité. Si tu ne trouves pas de régularité,
ça va jamais décoller. Moi, je sais qu'à partir du moment... J'ai pas partagé avec vous, je crois, mon game changer.
Non.
Bah voilà, je le dis maintenant. Mon game changer, pour moi, ça a été le podcast une fois par semaine.
Ouais, c'est vrai.
Depuis que je fais le podcast une fois par semaine, mon business a fleuri.
Mais c'était l'année dernière. Quand
ça fait un an et demi maintenant que je le fais une fois par semaine.
Je me souviens de toi qui me dit, ça y est, maintenant, tous les mardis, je vais sortir un podcast.
Ouais, il y a une espèce de... une relation à la régularité à guérir, en fait, je trouve. Ouais. Parce que sinon, on est là, j'ai fait 3 pas sur Instagram en 3 semaines, et puis après, ben, il s'est rien passé, et j'ai pas envie de m'engager, parce qu'il y a des jours où je vais être fatiguée, et ben oui.
C'est un problème, en fait, en tant qu'entrepreneur, la régularité.
C'est clair.
Parce qu'on est libre.
Voilà. Du coup, on n'a pas envie de cette...
Mais en fait, c'est important de garder ça.
Hyper important. Et on le voit... et à la fois, c'est assez dans notre culture de, je trouve, vouloir pas s'engager.
Oui.
Pas que ça soit chiant.
Ouais.
Et du coup, quand une relation devient un petit peu relou, bah, next. Mais d'apprendre à avoir cette résilience de dire, ok, non, je me suis engagée, ça va être ça... Je vais être fatiguée, je vais être machin, mais en fait, je vais le faire. Ben, c'est important, même si... Voilà, on l'a aussi dit, c'est un peu... Au contraire, à aussi... Enfin, il y a des... Comment on dit? Des contrastes, puisqu'on a dit que parfois, ben, on n'avait pas envie de produire du contenu quand on se sentait pas forcément bien.
On revient sur le premier point, se connaître.
Ouais.
Et à quel moment il faut pas lâcher, il faut être régulier, et c'est à quel moment il faut prendre soin de soi et...
Ouais.
Puis un point qui est important, quand tu parlais de pas lâcher, et je trouve qu'on parlait des fails, qui était une question hyper intéressante. Et moi, il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a fait trop de bien, et c'est en fait, il n'y a pas d'échec tant qu'à chaque fois tu apprends. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui merde, je me dis, ok, en fait là c'est fait, tu peux rien faire, donc arrête de ressasser, et en fait ça sert à rien, c'est l'énergie perdue. Par contre, qu'est-ce que tu as appris? Et à chaque fois qu'il y a un truc qui merde, c'est je fais en sorte de mettre un process et de tirer des apprentissages de ça pour que ça ne revienne plus et que ça soit juste. Un fail, mais que chaque fail, entre guillemets, soit une source d'apprentissage et pas un truc où tu rabâches et tu dis mais pourquoi, parce qu'il y a des moments, ça sert à rien en fait de perdre de l'énergie là-dessus. Mais de rebondir et à chaque fois de dire ok, ça n'arrivera plus, j'ai appris ça, et t'avances, et ça fait que grandir et te faire monter vers le sommet.
Généralement, ça fait pas plaisir les gros fails, donc la leçon, tu la retiens bien.
Ouais, c'est clair.
Mais il y en aura toujours.
Oui.
Et t'apprends, en fait.
Oui. Et puis d'être entouré, de pouvoir partager ses galères et de pouvoir se soutenir et tout, ça, c'est tellement important.
Tu dis que t'es pas toute seule.
Ouais.
Que ça va aller.
Ouais, c'est clair.
Parfois, t'as ce truc de « Pourquoi il m'arrive tout ça, j'ai l'impression que personne galère comme moi. »
Ouais.
Si.
T'inquiète pas.
You're not alone. Ouais, c'est pour ça que c'est hyper important d'échanger entre entrepreneurs et de trouver des réseaux, les réseaux qui vous conviennent. Et si vous êtes hyper éloigné, il y a plein de réseaux en ligne. Vous tapez réseau entrepreneur, il y en a que des féminins, des mixtes, et il y a plein de façons de se connecter avec d'autres entrepreneurs.
Merci beaucoup les filles pour votre temps, pour vos partages. C'était hyper généreux. Et je mettrai évidemment les liens vers vos épisodes respectifs, les liens vers vos produits, vos services, tout ce que vous avez à partager. Et vraiment, je suis trop, trop contente de vous avoir dans ma vie. Vous êtes deux précieux soleils.
Je pense la même chose.
Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'espère que l'épisode t'a plu et que tu y as trouvé des conseils inspirants et motivants pour ton aventure entrepreneuriale. Si tu as apprécié le podcast, alors une façon simple de me soutenir, c'est de te rendre sur l'application Apple Podcast ou Spotify et de me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit si l'application le permet. N'oublie pas également de t'abonner pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une très belle journée, soirée, où que tu sois.